Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Quel logorée romanesque et idyllique se multiplie dans les médias et aussi les réseaux sociaux sur l'apaisement espéré du monde d'après Covid et confinement. La réalité, comme on pouvait d'ailleurs le prévoir, est tout autre. Toutes les catégories socio-professionnelles exigent immédiatement, peut-être à juste titre, le retour au monde d'avant, à quelques bémols près pour rester dans la mélodie. On entrevoit même le pire qu'avant, avec les élucubrations à la mode complotiste, dans les psychoses collectives de la peur. Et pourtant, je reste optimiste. Curieusement, le discours pédagogique et sévère de Jean Castex correspond, hélas, semble-t-il par hasard, cette correspondance, au 5e anniversaire de l'accord de Paris, la COP21, contre le réchauffement climatique. Acceptons-en l'augure. Confinement et sauvegarde de la planète nous oblige à assumer des ruptures et à accepter avec étonnement notre extrême vulnérabilité. Ces deux cruelles expériences devraient nous rendre vigilants contre les longs voyages, les déplacements peu utiles pour le commerce local, être vigilants en faveur du commerce local, en faveur d'une autre répartition financière, quand on constate que tout un chacun peut brusquement plonger dans la précarité. Nous apprenons beaucoup de ces crises sanitaires et climatiques. Nous avons découvert au quotidien à la fois la solitude et la solidarité. Les menaces de la nature nous renvoient à la conscience de ce que Heidegger appelait l'être pour la mort. Être pour la mort en présence duquel je suis finalement seul. Mais en même temps, sa disciple de Heidegger, et en même temps contradictrice, Anna Arendt nous aide à voir l'occasion vécue ces temps-ci de solidarité admirable envers les plus menacés et envers les plus aidants. Découverte d'interdépendance qui nous menace et qui nous protège aussi. Dans les entreprises, le télétravail nous montre combien le numérique est indispensable, mais combien aussi il est frustrant pour faire culture commune et société humaine. L'autonomie du travailleur expert de son métier s'est accrue et l'encadrement entre toujours plus dans ce qu'on peut appeler des intermédiations professionnelles horizontales, ou en nuançant, moins vertical, moins hiérarchique qu'avant les crises. Mais nous souffrons aussi de trop d'enfermement dans nos spécialités. Nous avons perdu la vision d'ensemble de la société, de la vie, la synthèse, la Weltanschauung de la philosophie allemande, qui, seule cette synthèse, donne sens, mais nous venons justement d'en prendre conscience. Je crois aussi que nous allons veiller plus ou moins à valoriser le social par rapport à l'économique. D'un seul coup, au printemps, vous l'avez remarqué, des centaines de milliards d'euros sont venus au secours des crises sanitaires et sociales, et ça c'est très bien, mais alors que un mois avant, il semblait, souvenez-vous, difficile de trouver quelques millions pour les hôpitaux. L'État-providence est heureusement redevenu à la mode, car il est le coordinateur du bien commun. La France a même retrouvé, un peu en catimini, un commissaire au plan. Il faut changer les axiomes des sciences économiques, qui orientent le bonheur, vous le savez, uniquement vers la croissance de la consommation. Est-il normal qu'un assistant social ou une assistante sociale soit moins valorisée à tous égards qu'un agent de publicité? Nous avons appris cette anomalie, mais est-ce qu'on va la corriger? Pour moi, il y a un indice qui peut montrer si nous nous sommes convertis au monde d'après dont nous rêvons. Sommes-nous prêts à dépenser plus d'argent pour la santé que pour l'automobile? En 2018, chaque Français a dépensé pour la santé, toute assurance maladie comprise, 3 037 euros en moyenne. Or, pour sa voiture, il a exactement, toujours la même année bien sûr, 2018, dépensé le double, 6 063 euros contre 3 037 euros pour la santé. Nous avons encore beaucoup de pain écologique et sanitaire sur la planche habillée de notre consommation quotidienne. Et puis, divers facteurs ont modifié notre façon de vivre le temps. Les crises et les ruptures inattendues ont rendu l'avenir incertain. C'est du moins ce que nous avons tendance à répéter à tout bout de champ et en nous lamentant. Mais connaissez-vous une époque où l'avenir était certain ? Oui, sans doute du temps des générations rurales avant la révolution industrielle. Tout se répétait, de génération en génération. De même pour les générations ouvrières de 1850 à 1950, où les familles ne changent guère de ville, d'habitat, d'éducation et d'entreprise. Était-ce à cette époque véritablement des générations enviables grâce à leur avenir certain? Ça m'étonnerait. N'aurait-elle pas souhaité, ces générations d'hier, un avenir moins certain, moins fermé? Il est vrai que l'avenir peut paraître inquiétant quand on constate en 2020 la montée des violences, la montée des maladies nouvelles, la destruction de la nature, ou même peut-être la robotisation et l'intelligence artificielle. Mais souvenons-nous, que l'humanité a survécu à des pandémies beaucoup plus mortelles que celles que nous venons de traverser, des pandémies telles que la peste ou le choléra. L'humanité a survécu aussi à des guerres mondiales et à des révolutions technologiques majeures. Bref, il n'y a pas de quoi se désoler plus que les générations passées. De plus, l'avenir n'est l'avenir que s'il est largement inconnu. Je m'explique. Si nous connaissions tout ce qui va nous arriver, le futur, d'ores et déjà en quelque sorte joué et déterminé, puisque nous le connaissons, ressemblerait fort à du passé, c'est-à-dire à du déjà accompli. L'avenir est ouverture à l'autrement qu'hier et aujourd'hui, ouverture à l'altérité, à l'inconnu, à l'incertain. L'avenir n'est jamais la suite apparemment logique du présent. L'avenir ne provient pas de derrière nous. L'avenir se prend en pleine gueule. Il vient du devant. Il est à venir en deux mots, à accent grave, plus loin, venir. Il est à venir. Point. Le christianisme a dépassé les civilisations gréco-latines qui avaient le tort de croire en la fatalité, comme Sophocle et son Oedipe. Le fatum romain a été remplacé par l'espérance chrétienne qui, avec foi et amour, nous fait prendre notre destin en main.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.